Bien des hommes de Dieu ont appris de Christ ce secret, et quand le travail les a pressés plus qu'à l'ordinaire, ils ont mis à part pour la prière un plus grand laps de temps que de coutume. D'autres hommes de Dieu jadis puissants ont perdu leur force parce qu'ils n'ont pas appris ce secret et ont permis que le travail croissant refoule la prière hors de leur vie. Il y a quelques années, l'auteur de ces lignes eut, avec quelques autres étudiants en théologie, le privilège de poser des questions à l'un des serviteurs de Christ les plus estimés de l'époque. L'auteur fut conduit à demander « Voulez-vous nous dire quelque chose de votre vie de prière ?» L'homme resta un moment silencieux, puis, tournant ses yeux vers moi avec gravité, répondit Eh bien, je dois reconnaître que j'ai été si débordé d'ouvrages dernièrement que je n'ai pas consacré à la prière le temps qu'il aurait fallu. Quoi d'étonnant à ce que cet homme ait maintenant perdu la puissance et que la grande œuvre qu'il était en train d'accomplir se soit trouvée diminuée dans des proportions considérables. N'oublions jamais que plus le travail nous presse, plus nous devons passer de temps en prière. 6. Jésus-Christ pria avant les grandes tentations de sa vie. À mesure qu'il approchait de la croix et comprenait qu'il y subirait la grande épreuve finale de sa vie, Jésus prit l'habitude de se rendre dans le jardin pour prier. Il alla dans un lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier ». Matthieu 26, 36, la victoire du calvaire fut remportée cette nuit-là dans le jardin de Gethsémané. La calme majesté de son maintien en essuyant les terribles assauts qu'il subit au prétoire de Pilate et au calvaire fut le résultat de la lutte, de l'agonie et de la victoire de Gethsémané. Mais alors que Jésus prit et les disciples dormaient, aussi demeura-t-il ferme tandis qu'ils tombèrent ignominieusement. Bien des tentations viennent sur nous inopinément et à l'improviste, et tout ce que nous pouvons faire alors est de faire monter un cri vers Dieu, afin qu'il nous secoure à l'instant même et sur le champ, mais nous pouvons voir s'approcher de loin bien des tentations de la vie, et dans de tels cas la victoire doit être remportée avant que la tentation ne nous atteigne. 7. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, nous lisons « Priez sans cesse » dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tous dans toutes sortes de prières ». Notre vie tout entière doit être une vie de prière. Nous devons marcher en constante communion avec Dieu. Notre âme doit constamment regarder en haut vers Dieu. Nous devons marcher si habituellement dans sa présence que, même quand nous nous éveillons la nuit, ce soit pour nous la chose la plus naturelle que de lui adresser des actions de grâce et des supplications. Comment prier ? 11. Nécessité d'un réveil universel. Si nous voulons prier comme il convient à une époque comme la nôtre, beaucoup de nos prières doivent tendre au réveil universel. S'il n'y eut jamais un temps dans lequel il fut nécessaire de crier à Dieu, avec le psalmiste « Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Psaume 85, 7, c'est bien celui dans lequel nous vivons. Il est sûrement temps que l'Éternel agisse car les hommes ont annulé sa loi. Psaume 119, 126, la voix du Seigneur, qui retentit dans sa parole écrite, est réduite à néant, tant par l'Église que par le monde. Une telle époque ne doit pas nous porter au découragement, celui qui croit en Dieu et en la Bible ne peut jamais être découragé, mais il est temps pour Jéhovah lui-même d'intervenir et d'agir. Le chrétien avisé, sentinelle en éveil, sur les murailles de Sion, peut bien crier avec le psalmiste d'autrefois, il est temps que l'Éternel agisse, ils ont annulé ta loi. Psaume 119, 126 Lausanne. Le grand besoin du jour est un réveil universel. Voyons d'abord ce qu'est un réveil universel. Un réveil 1 est un temps où la vie est activée ou communiquée. comme Dieu seul peut donner la vie, un réveil est un temps où Dieu visite ses enfants, leur communique une vie nouvelle par la puissance de son esprit et au travers d'eux donne la vie en partage aux pécheurs morts par leurs offenses et leurs péchés. Il y a des excitations religieuses suscitées par les méthodes artificieuses et l'influence hypnotique de simples professionnels de l'évangélisation, mais ce ne sont pas là des réveils et nous n'en voulons point. Ce sont les imitations diaboliques du réveil. Une vie nouvelle venant de Dieu, voilà un réveil. Dans un temps de réveil universel, cette vie nouvelle venant de Dieu n'est pas donnée seulement à quelques localités isolées, mais elle se répand à travers toute la chrétienté et sur toute la terre. La raison pour laquelle un réveil universel est nécessaire est que la disette, la désolation et la mort spirituelle sont elles-mêmes universelles. Cela ne se limite pas à un pays particulier, bien que cela soit plus manifeste en certains pays qu'en d'autres. On en souffre dans les lointains champs de mission, aussi bien que dans nos pays. Nous avons eu des réveils locaux, l'esprit vivifiant de Dieu a soufflé sur tel ou tel serviteur de Dieu, sur telle ou telle église, sur telle ou telle congrégation, mais nous avons besoin, intensément besoin, d'un réveil universel. Considérons pendant quelques instants les résultats d'un réveil. Ceci se manifeste chez les serviteurs de Dieu, dans l'Église et parmi les perdus. 1. Les résultats d'un réveil chez un serviteur de Dieu sont les suivants. Le serviteur de Dieu ressentira un nouvel amour pour les âmes. D'une façon générale, nous n'avons pas, nous, serviteurs de Dieu, l'amour des âmes comme nous devrions l'avoir, comme Jésus l'avait, comme Paul l'avait. Mais quand Dieu visite son peuple, le cœur de ses serviteurs est lourdement chargé du fardeau des âmes perdues. Ils sont mus par l'ardent désir du salut de leur prochain. Ils oublient leur ambition de prêcher de beaux sermons pour être célèbres et ils ont simplement soif de voir des hommes amenés à Christ. Mais quand vient un vrai réveil, les serviteurs de Dieu éprouvent un nouvel amour pour la parole de Dieu et ont en elle une foi nouvelle. Ils jettent leurs doutes et leurs critiques de la Bible et des credos, ils prêchent fidèlement la Bible et surtout Christ crucifié. Les réveils rendent orthodoxes les serviteurs aux doctrines relâchées. Un authentique réveil vaste et irrésistible ferait plus pour retourner les choses sans dessus-dessous et les remettre ainsi dans le bon sens que tous les tribunaux qui aient jamais été institués et pour condamner les hérésies. C'est les réveils apportent à la prédication des serviteurs de Dieu une liberté nouvelle et une nouvelle puissance. Préparer un sermon n'est plus le grain sans la beurre de toute une semaine, le prêcher, une fois préparé, n'est plus une épuisante dépense nerveuse. Dans les temps de réveil, prêcher devient une joie et un rafraîchissement, et il y a de la puissance dans la prédication. 2. Les résultats d'un réveil chez les chrétiens sont généralement aussi marqués que ses effets sur le ministère. Dans les temps de réveil, les chrétiens sortent du monde et mènent des vies mises à part pour Christ. Des chrétiens qui folâtraient avec le monde, qui jouaient aux cartes, dansaient, allaient au spectacle et se livraient à d'autres folies semblables les abandonnent. Quand on reçoit une vie et une lumière accrue, on découvre que ces vanités sont incompatibles avec elle. Mais dans les temps de réveil, les chrétiens ont un esprit de prière tout nouveau. Les réunions de prière ne sont plus un devoir, mais deviennent une nécessité pour les cœurs affamés et exigeants. On trouve un goût nouveau à la pratique de la prière privée. Jour et nuit retentit la voix de la prière fervente adressée à Dieu. On ne demande plus Dieu, répond-il à la prière? On sait qu'il le fait et on assiège le trône de la grâce jour et nuit. C'est dans les temps de réveil les chrétiens se mettent au travail pour les âmes perdues. Ils ne vont pas aux réunions pour se divertir ou pour être bénis. Ils vont aux réunions pour guetter les âmes et les amener à Christ. Ils parlent aux gens dans la rue, dans les magasins et dans leur propre maison. la croix de Christ, le salut, le ciel et l'enfer deviennent des sujets constants de conversation. La politique, le temps qu'il fait, les nouveaux chapeaux et les dernières nouvelles sont oubliés. Dès dans les temps de réveil, les chrétiens trouvent en Christ une joie nouvelle. La vie, c'est la joie, et la vie nouvelle, c'est une nouvelle joie. Les temps de réveil sont des temps joyeux, des jours de ciel sur la terre. Dans les temps de réveil, les chrétiens ont un nouvel amour pour la parole de Dieu. Ils désirent l'étudier jour et nuit. Les réveils sont fâcheux pour les cafés et les salles de spectacle, mais ils sont favorables aux librairies évangéliques et aux sociétés bibliques. 3. Mais les réveils ont aussi une influence décisive sur le monde des perdus. Avant tout, ils apportent une profonde conviction de péché. Jésus disait que, lorsque l'Esprit serait venu, il convaincrait le monde de péché. Jean 16,5, 7-8 or, nous avons vu qu'un réveil c'est l'effusion du Saint-Esprit, par conséquent il faut qu'il y ait à nouveau conviction de péché, et effectivement elle l'accompagne toujours. Si vous voyez quelque chose que les hommes appellent réveil et qu'il n'y ait aucune conviction de péché, vous pouvez être assuré immédiatement que c'est une imposture. Ce signe est certain. Mais les réveils amènent aussi la conversion et la régénération. Quand Dieu rafraîchit son peuple, il convertit toujours aussi les pécheurs. Le premier résultat de la Pentecôte fut un renouvellement de vie et de puissance pour les 120 disciples dans la chambre haute. Le second résultat fut 3000 conversions dans la même journée. Il en est toujours ainsi. Je lis sans cesse des relations de réveil, ça et là, où des chrétiens ont été grandement secourus mais sans qu'il y eut de conversion. J'ai des doutes sur cette sorte de réveil. Si les chrétiens sont vraiment rafraîchis, ils se mettront en quête des perdus par la prière, le témoignage et les entretiens persuasifs, et il y aura des conversions. Pourquoi un réveil universel est-il nécessaire? Nous venons de voir ce qu'est un réveil universel et ce qu'il opère. Examinons maintenant la question de savoir pourquoi il est nécessaire à l'heure actuelle. Je pense que la simple description de ce qu'il est et de ce qu'il opère montre combien nous en avons besoin, intensément besoin, mais considérons quelques-unes des circonstances particulières d'aujourd'hui qui soulignent ce besoin. Signaler ces circonstances est bien propre à vous faire traiter de pessimiste. Eh bien, si regardez les faits, en face s'appelle du pessimisme, je consens à être appelé pessimiste. Si, pour être optimiste, il faut fermer les yeux et appeler blanc ce qui est noir, vérité ce qui est erreur, justice ce qui est péché et vie ce qui est mort, je ne veux pas être appelé optimiste. Cependant, je suis un optimiste tout de même, car reconnaître l'état réel des choses conduira à un état meilleur. 1. Considérons d'abord le ministère. À beaucoup de ceux qui parmi nous professent l'orthodoxie sont, dans la pratique, des incrédules. Ce langage est rude, mais aussi le fait est indiscutable. Il n'y a pas de différence essentielle entre les enseignements de tels éminents rationalistes et ceux de quelques-uns de nos professeurs de théologie. Ces derniers ne sont pas toujours aussi francs et honnêtes sur le sujet. Ils s'expriment en phrases plus élégantes et mieux étudiées, mais la signification est identique. Une bonne partie de ce qu'on appelle nouvelle école et haute critique n'est autre que de l'incrédulité enrobée de sucre. L'un de nos plus érudits professeurs, qui est un savant authentique et non un simple écho du rationalisme allemand, citait un jour la déclaration de quelques principes et demandait si cela ne représentait pas correctement les positions de l'école critique du jour. Quand il fut admis qu'il en était bien assis, il stupéfia son auditoire en ajoutant « Eh bien, je lis cela dans l'âge de la raison du fameux libéral Thomas Paine. » il n'y a pas grand-chose de neuf dans la haute critique. Nos futurs pasteurs sont souvent instruits par des professeurs incrédules. Étant des jeunes gens en maturité, quand ils entrent à la faculté ou au séminaire, ils en ressortent tout naturellement incrédules eux-mêmes dans bien des cas et s'en vont empoisonner l'Église. Mais même quand nos ministres du culte sont franchement orthodoxes et, Dieu merci, ils sont fort nombreux, bien souvent ce ne sont pas des hommes de prière. Combien de pasteurs savent aujourd'hui ce que c'est que lutter dans la prière, passer une bonne partie de la nuit à prier? J'ignore leur nombre, mais ce que je sais bien c'est que beaucoup ne savent pas prier ainsi. C'est beaucoup d'entre nous, ministres du culte, n'ont pas l'amour des âmes. Combien en est-il qui prêchent par ceux qu'ils en sont intérieurement pressés devant le grand nombre de ceux qui périssent et dans l'espérance d'en sauver quelques-uns? Et combien poursuivent leur prédication, comme Paul le faisait en suppliant les hommes, en tous lieux d'être réconciliés avec Dieu? Peut-être a-t-on assez parlé de nous les ministres du culte, mais il est évident qu'un réveil est nécessaire dans notre propre intérêt, sinon quelques-uns d'entre nous auront à se présenter devant Dieu, accablés de confusion au jour terrible de la reddition des comptes qui vient sûrement. 2. Regardons maintenant à l'Église. Avoyez l'état de l'Église au point de vue doctrinal. Il est assez mauvais, beaucoup ne croient pas à la Bible en son entier, ils pensent que le livre de la Genèse est un mythe, l'histoire de Jonas une allégorie, doutent des miracles du Fils de Dieu, considèrent la doctrine de la prière comme vieillotte, et raillent l'œuvre du Saint-Esprit, la conversion leur paraît inutile et ils ne croient plus, à l'enfer. Considérez maintenant les marottes et les erreurs qui sont le fruit de cette disparition de la foi science chrétienne, unitarianisme, spiritisme, universalisme, babisme, guérison métaphysique, etc., c'est un vrai pandémonium de doctrine diabolique. Mais voyez maintenant l'état spirituel de l'Église. La mondanité envahit les membres de l'Église. Beaucoup d'entre eux sont aussi acharnés que quiconque dans la poursuite de la fortune. Ils se servent des méthodes du monde pour accumuler les richesses et ils y sont aussi attachés que quiconque quand ils les ont obtenues. Les membres d'Église dépourvus d'esprit de prière abondent de toutes parts. Quelqu'un a dit que les chrétiens ne passent pas, en moyenne, plus de 5 minutes par jour en prière. La négligence de la parole de Dieu va de pair avec celle de la prière. Un très grand nombre de chrétiens passent deux fois plus de temps chaque jour à se vautrer dans la boue des quotidiens qu'ils n'ont pas cessé de se purifier dans cette cuve d'airain qu'est la sainte parole de Dieu. Combien y a-t-il de chrétiens qui passent en moyenne une heure par jour à l'étude de la Bible? Le manque de générosité va de pair avec la négligence de la prière et la négligence de la parole de Dieu. Les églises s'enrichissent rapidement, mais la caisse des sociétés missionnaires est vide. Les chrétiens ne donnent pas en moyenne un dollar par an pour les missions étrangères. C'est tout simplement effrayant. Il y a aussi le mépris croissant du jour du Seigneur. Il devient rapidement un jour de plaisir mondain au lieu d'un jour de service divin. Le journal du dimanche, avec son bavardage futile et ses potins immondes, prend la place de la Bible, tandis que les distractions mondaines, les sports, la bicyclette prennent celle de l'école du dimanche et du culte. Les chrétiens se mêlent au monde dans toutes sortes d'amusements douteux. Le jeune homme ou la jeune femme, qui ne prend pas plaisir à la danse, avec son impudeur manifeste, aux parties de cartes avec leur entraînement à la passion du jeu, ni au spectacle avec leur incitation toujours croissante à la débauche, passe pour être vieux jeu. Enfin, quelle faible proportion des membres de nos églises portent réellement en communion avec Jésus-Christ le fardeau des âmes. Mais c'est assez parlé de l'état spirituel de l'Église. 3. Regardons maintenant l'état du monde. à noter combien il y a peu de conversions. L'église méthodiste, qui a pourtant pris la tête de l'action conquérante, a actuellement perdu plus de membres qu'elle n'en avait gagné. Il y a bien ça et là une église qui compte un grand nombre de nouvelles adhésions à sa profession de foi, mais ces églises sont de rares exceptions et, parmi ces adhésions, qu'il est rare qu'elles correspondent à des conversions profondes, complètes et satisfaisantes. B. La conviction de péché fait défaut. Il est rare que les hommes soient écrasés par le sentiment de leur terrible culpabilité alors qu'ils foulent aux pieds le Fils de Dieu. Le péché est considéré comme une malchance, une faiblesse, voire même une bonne intention, rarement comme une monstrueuse offense contre le Dieu saint. C'est l'incrédulité effleurissante. Beaucoup considèrent comme un signe de supériorité intellectuelle le fait de rejeter la Bible et même la foi en Dieu et à l'immortalité. C'est à peu près le seul signe de supériorité intellectuelle que beaucoup possèdent et c'est sans doute pourquoi ils s'y cramponnent avec tant de ténacité. Dès cette incrédulité, universellement répandue va la main dans la main, comme cela s'est toujours vu, avec une monstrueuse immoralité. L'incrédulité et l'immoralité sont sœurs siamoises. Elles existent, croissent et s'amplifient toujours ensemble. Cette immoralité règne partout. Regardez cet adultère légal que nous appelons le divorce. Des hommes épousent une femme après l'autre et continuent à être admis dans la bonne société, les femmes font de même. Il y a en Amérique des milliers d'hommes prétendus respectables qui vivent ainsi avec la femme d'un autre et des milliers de femmes non moins prétendues respectables qui vivent pareillement avec le mari d'une autre. Cette immoralité se retrouve aussi dans les spectacles. Le théâtre le meilleur est déjà passablement mauvais, mais aujourd'hui les courtisanes, les dégénérés et autres vils et innommables accessoires de la scène déterminent le goût du jour et les femmes qui s'avilissent dans de tels rôles sont encensées par la presse et reçues chez des personnes elles aussi prétendues respectables. Une bonne partie de notre littérature est pourrie, mais des gens convenables n'en lisent pas moins telle ignoble production parce qu'elle fait fureur. L'art ne sert le plus souvent que de paravent à une indécence éhontée, des femmes sont amenées à jeter au vent toute pudeur afin de permettre à l'artiste de perfectionner son talent et de se pervertir. L'avidité pour l'argent est devenue la rage du riche et du pauvre. Le multimillionnaire vendra son âme et foulera aux pieds les droits de son prochain dans la folle espérance de devenir milliardaire et l'ouvrier, ira jusqu'au meurtre pour augmenter les pouvoirs du syndicat et maintenir le niveau des salaires. On fait la guerre et on tue les hommes, comme des chiens pour améliorer le commerce et pour acquérir un prestige politique à des politiciens, sans scrupules qui se donnent pour hommes d'État. Aujourd'hui, la licence demeure, redressant tous lieux sa tête de serpent. Vous la voyez dans les journaux, vous la voyez sur les panneaux publicitaires, sur les réclames de cigares, de chaussures, de bicyclettes, de spécialités pharmaceutiques, de corsets ou de n'importe quoi.